évangélisé autour de lui. Et puis 60 personnes sont venues à Christ en peu de temps. Et plus tard, par la grâce de Dieu, les enfants ont pu avoir l'autorisation de revenir. Une jeune femme a été perquisitionnée car elle était suspectée d'être chrétienne. Ils ont trouvé 3 chants chrétiens sur son ordinateur. Ils ont tout confisqué, sa Bible et d'autres choses, des livres qu'elle avait. Mais elle a continué d'annoncer l'évangile malgré les menaces. Un autre couple avec 4 enfants vit depuis 13 ans dans une seule pièce que nous avons visitée. C'est une toute petite chambre. Quelqu'un de la famille a proposé au père de famille d'avoir une maison. Mais pour cela, il devait renier Jésus. Le père de famille a refusé de renier Jésus. Pourtant, c'était difficile de vivre à 6 avec 4 adolescents, là, actuellement, de 15 à 21 ans. C'est très difficile de vivre assise dans cette petite pièce et une petite cuisine. Mais les enfants ont dit à leur père, écoute, on te suivra, fais comme tu veux, même si pour nous ce serait plus confortable d'avoir une maison, on accepte parce qu'on ne veut pas renier Jésus. Et toute la famille est engagée pour servir le Seigneur. Une autre famille vit dans l'appartement d'une sœur et celle-ci voulait les tuer quand ils sont devenus chrétiens. Et la mère de famille a dit, tu peux nous tuer si tu veux. Mais nous, nous aurons une belle maison là-haut. Un autre exemple d'une adolescente de 14 ans. Elle est devenue chrétienne par l'intermédiaire d'une amie. Et donc, sa famille l'a su, l'a battue. Et son père l'a expulsée de la maison, car il ne voulait pas renier sa foi. Elle a ensuite été recueillie par une famille chrétienne. Mais aujourd'hui encore, elle ne voit plus sa famille. Il y a un groupe de chrétiens qui nous a montré des diapos de ce qu'ils font, de leurs projets, de leurs œuvres, de leurs rencontres. Mais pour ça, ils ont dû déterrer les diapos pour nous les montrer. Et juste après, ils allaient les enterrer de nouveau pour que la police ne les découvre pas. Une autre femme a perdu 3 fois son emploi à cause de son ministère parmi les femmes. L'État l'a obligée à démissionner. Mais elle fait toujours confiance à Dieu plutôt qu'aux circonstances. Son mari, qui avait une voiture, l'a vendue pour les besoins des chrétiens et pour payer les amendes dues au fait qu'il témoigne de Jésus. Pour se retrouver, les chrétiens se réunissent par petits groupes, chez l'un ou chez l'autre, et le responsable les enseigne. Ils chantent à voix basse pour ne pas éveiller les soupçons, pour que les voisins ne les entendent pas et ne les dénoncent pas. Et une fois, avant de monter dans l'escalier d'un bâtiment pour rencontrer les chrétiens qui étaient avec nous nous ont dit surtout ne parlez pas en montant les escaliers. Et donc nous sommes montés silencieusement pour que les voisins ne remarquent pas. Quand il fait froid l'hiver, certains n'ont pas de chauffage et ils se réunissent dans les voitures pour pouvoir entendre l'enseignement. Ils mettent le moteur à chauffer, enfin pour se réchauffer, ils mettent le moteur en route pour pouvoir se réchauffer et pouvoir entendre la prédication. Tous ces chrétiens, qu'ils soient entendants ou sourds-muets, nous ont dit combien ils étaient encouragés de voir que Dieu nous avait envoyés de France spécialement pour eux, pour les aider, pour les encourager et leur permettre de continuer l'œuvre du Seigneur. Un responsable de maison nous a dit « Mais qui suis-je pour que des chrétiens de France viennent prier pour moi ?» Et dans la capitale aussi, d'autres chrétiens, bien entendants, nous ont dit « Merci d'être venus jusqu'à nous. » Nous voyons que nous ne sommes pas seuls, que Dieu ne nous a pas abandonnés. Vous êtes avec nous, vous priez pour nous et vous venez nous voir et nous apporter l'aide dont nous avons besoin pour continuer l'évangélisation. Puis un autre exemple aussi d'une femme nord-coréenne qui se trouvait en Ouzbékistan, mais qui ne connaissait pas la langue. Une fois qu'elle s'est convertie, quelques années plus tard, le Seigneur lui a dit « Témoigne de moi auprès des Ouzbeks ». Et elle a dit « Mais je ne peux pas le faire, je ne connais pas l'Ouzbek. Ce n'est pas ma langue, je connais le russe et le nord-coréen, mais je ne connais pas l'Ouzbek. » Et devant l'insistance du Seigneur, elle est allée vers des gens, des Ouzbeks. Elle a commencé à parler et là, elle s'est rendue compte qu'elle parlait en Ouzbek. Le Seigneur a fait ce miracle. Souvent, la police vient chez elle parce qu'elle est connue. Et donc, chaque fois qu'elle est inquiétée par la police, elle se souvient du verset de Luc 12, verset 11, qui dit « Quand on vous mènera devant les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et là, chaque fois, elle reprend courage. Je lui ai demandé si elle avait des conseils à nous donner. Elle a dit simplement, « Quand tu suis Jésus, suis-le. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Suis-le dans les bons moments comme dans les mauvais. » Cette femme a appris à être dans la joie malgré la persécution, en suivant Jésus et en marchant à contre-courant. Maintenant, on va voir un texte de la Bible, dans plusieurs textes, dans Actes 3, versets 1 à 11, et Actes 4, versets 1 à 5 et 15 à 20. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Acte 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. » Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Verset 19, on voit que Pierre et Jean étaient déterminés à obéir à Dieu, malgré les risques qu'ils encouraient, puisqu'ils disaient « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Pierre et Jean étaient zélés par le Seigneur, pour le Seigneur. Ils annonçaient l'Évangile en priant avec foi pour les malades. Et la guérison divine d'un homme a dérangé tous les chefs politiques, les chefs religieux. Pierre et Jean étaient connus comme des gens sans instruction. Ils étaient pécheurs. Et pourtant, au travers d'eux, il y a eu une guérison de l'homme boiteux de naissance. Alors que les gens hautement placés et instruits, par eux, rien ne s'était produit. Aucun miracle ne s'était passé. Il est possible que la jalousie de ces chefs religieux ait eu le dessus. Et d'autre part, cette guérison médiatisée leur faisait craindre les disciples et la foule aussi. Ou peut-être que ces chefs religieux se sentaient atteints dans leurs convictions. En tout cas, ils ne savaient pas comment contrôler la situation. C'est pourquoi ils ont interdit aux disciples de parler de Jésus. Pour eux, c'était la meilleure solution. Mais Pierre et Jean ne se sont pas laissés intimider par ces autorités. Et avec assurance, ils ont répondu qu'ils continueraient à parler du Seigneur. Comme dans cet exemple de tout à l'heure, où le père a dit à la police, expulsez les enfants si vous voulez, mais nous ne renierons pas Jésus. Ils ont préféré obéir à Dieu. Les chrétiens sont appelés à vivre ouvertement leur foi malgré les attentes et les opinions ou les menaces de ceux qui les entourent, ou même de la famille. Les difficultés apparaissent souvent lorsque l'Église devient visible, qu'elle prend position publiquement. C'est alors que la persécution agit. Le récit de la toute première persécution contre les chrétiens dans le livre des Actes nous en parle, comme nous l'avons vu. En regardant le contexte biblique, on voit que les disciples et les premiers convertis formaient une petite minorité. Leur chef, Jésus, avait été crucifié quelques mois auparavant. Au début, tout se passait dans la paix et l'harmonie. Ils ne dérangeaient pas. Ils étaient chez eux, dans leur maison. Ils étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vivaient pleinement leur foi. Mais ils restaient au sein de leur communauté. Personne n'avait remarqué leur présence. Ils ne faisaient pas de vagues. Jusque-là, la minorité chrétienne à Jérusalem ne faisait craindre personne. Tant que notre foi reste privée et ne choque pas, il n'y a pas de problème de persécution. En relisant les Actes 3, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui provoque la persécution ? Bien, les disciples manifestent leur foi dans un lieu très sensible, le temple. À ce moment précis, la foi chrétienne est devenue publique et visible. Leurs actes d'évangélisation ont amené plusieurs conséquences. Ils ont touché à l'état religieux. Cet homme boiteux était habituellement assis devant la porte Labelle. Et les gens avaient l'habitude de l'aider par l'aumône. C'était une bonne œuvre qu'on faisait quand on allait au temple. Mais Pierre et Jean sont allés plus loin que de donner. Ils ont fait exploser leur façon de faire. Ils ont prié et l'homme a été guéri miraculeusement. En parallèle, j'aimerais vous rapporter le témoignage d'un pasteur à Cuba à qui j'avais apporté des Bibles. Il priait pour les malades de son église et beaucoup étaient guéris. Et ces miracles étaient connus dans le quartier. Il y avait à l'époque plusieurs miracles, mais entre autres, il y avait des dents qui repoussaient dans la bouche. Et ces choses étaient connues dans le quartier. Et donc connues de la police, de l'État. Et devinez ce qui est arrivé à cet homme, à ce pasteur. Il a été emprisonné pour cause de médecine illégale. Il avait obéi à Dieu plutôt qu'aux autorités. Autre conséquence de cette foi publique dans la Bible, il dérange la paix sociale. La guérison suscite un attroupement de personnes. Et lorsque ce boiteux s'est redressé, il s'est mis à sauter, à louer Dieu dans le temple. Tout ça au sein de l'endroit le plus saint, le plus religieux pour les Juifs. C'était donc insupportable pour eux. Pierre et Jean annonçaient au peuple qu'ils avaient crucifié Jésus, le prince de la vie. Ils prononçaient des vérités dérangeantes. En plus, ils annonçaient qu'ils étaient témoins de la résurrection de Jésus. Quelles sont les sources de l'opposition ? Au début du chapitre 4 des Actes, on voit que Pierre et Jean sont arrêtés à la fois par les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Les Sadducéens et les pharisiens formaient la classe dirigeante d'Israël. Ce sont donc les chefs religieux et les dirigeants qui s'opposent aux disciples. Pourquoi le commandant du temple les arrête-t-il ? Eh bien, il dérange l'ordre public. L'Église est souvent persécutée par les dictateurs qui ne supportent pas ceux qui dérangent l'ordre public par leur obéissance. Et pourquoi les sacrificateurs arrêtent-ils Pierre et Jean ? Eh bien, ils dérangent l'ordre religieux. Quand l'Église grandit, elle dérange la religiosité, la religion. Elle met en avant que Jésus est le Fils de Dieu, ce qui dérange les musulmans, les bouddhistes, les hindous. Aujourd'hui, en Iran, on estime que des centaines de milliers de musulmans se sont convertis à Jésus. En Algérie, les églises dérangent les autorités. C'est pourquoi les policiers les ferment. En Inde, les nationalistes hindous ne supportent pas les conversions des chrétiens qui sortent du système de caste. Pour eux, l'Inde est seulement pour les hindous. Pourquoi les Sadducéens arrêtent-ils Pierre et Jean ? Ils contredisent le matérialisme, l'ordre idéologique. Les Sadducéens ne croient pas en la vie après la mort. Ce sont eux qui s'opposent le plus au message des premiers chrétiens. Comme dans le monde sécularisé, ils croient que seule la vie ici-bas compte. Ce sont des juifs matérialistes. Et les Sadducéens ne supportent pas le message des disciples. Aujourd'hui, à Cuba, on peut dire que la persécution est moins importante, mais elle est là quand même. Des pasteurs reçoivent des menaces d'arrestation. D'autres sont harcelés par la police. Le pasteur Valiente est convoqué chaque semaine par le commissariat. Chaque fois que son église organise un événement particulier, la police le convoque et le menace de l'arrêter. Au mois d'août, la police lui a demandé d'annuler la conférence pour femmes qu'il avait prévue. Il a refusé et la conférence a eu lieu. Puis la police lui a demandé d'annuler la journée spéciale programmée pour les jeunes. De nouveau, il n'a pas cédé et la journée s'est déroulée comme prévu. Il va à contre-courant des autorités, mais il prend des risques. Comme Pierre et Jean se sont retrouvés devant le tribunal qui a fait crucifier Jésus. Le Sanhédrin, ils ont dû être impressionnés. Allait-il lui aussi être crucifié comme Jésus ? Les premiers chrétiens sont persécutés car ils suivent Jésus et cela les emmène dans le même conflit avec le monde. Mais Jésus a prié le Père et dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. » Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On défend aux chrétiens d'aller à contre-courant. Le monde va dans une seule direction, celle qui vise à faire taire Jésus à réduire la foi, à se conformer aux règles, ne pas déranger, ne pas convertir, ne pas enseigner la vérité au monde. Mais les disciples ont réagi en marchant à contre-courant et en préférant obéir à Jésus. La persécution aujourd'hui n'est pas une entrave à l'évangile. Souvent, le nombre de chrétiens augmente encore plus vite sous la persécution, comme on le voit dans les Actes, où 5000 âmes se sont converties en un soir. En Algérie, comme vous le savez, une douzaine d'églises ont été fermées, et à Tizi Ouzou, on dénombre environ 1600 chrétiens. Malgré la persécution, la vision de l'Église est de voir Jésus élevé, proclamé et annoncé en Algérie et même au-delà. Et il prévoit d'envoyer même 1000 missionnaires à l'étranger. Que Dieu les bénisse et les utilise. Il ne faut pas toujours voir la persécution comme une mauvaise chose, mais souvent une magnifique occasion de témoigner aux non-croyants. Dieu touche des musulmans même dans les mosquées. Une femme avait l'habitude d'y aller, de prier en s'agenouillant. Et là, le Seigneur lui a parlé, lui a donné une vision et lui a montré comment prier. Puis elle s'est tournée vers Jésus. Elle en a parlé à l'imam. Avant de dire qu'elle se tournait vers Jésus, elle a dit tout simplement ce qu'elle recevait. Et l'imam a dit à sa famille qu'elle était possédée. Mais elle, aujourd'hui, continue de croire en Jésus. Ce que Dieu fait, ce qu'il a fait par les premiers disciples, il le fait encore aujourd'hui. Nous avons le même esprit. Demandons-lui l'audace, du zèle pour témoigner, et n'ayons pas peur de la persécution, car Jésus nous a promis d'être toujours avec nous. Alors, nous pouvons nous poser cette question, est-ce que nous sommes prêts à vivre à contre-courant pour obéir à Jésus? Je vais demander maintenant à notre frère Joby de nous donner un témoignage au sujet de l'Inde, et ensuite nous aurons un temps de prière.
Bonjour. Donc, je vais juste partager le témoignage de mes parents. J'ai déjà partagé avec vous, ça fait déjà, je crois, 6 mois. Du coup, nous, normalement, on vient du sud de l'Inde. Et donc, mes parents, ils sont bougés après en nord pour les ministères, pour partager l'évangile pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'était en 1992. Et donc, quand ils sont bougés là-bas, ils étaient nouveaux. Ils connaissent pas les langues, ils connaissaient rien, quoi. C'était complètement nouveau. Il n'y a personne. Donc, quand ils ont commencé son ministère là-bas, au nord du Land, en Rajasthan, c'est un désert. C'est un parti désert. On dit désert, c'est ça? Désert. C'est pas désert. Désert. Donc, quand ils sont bougés là-bas, Dieu il a commencé à travailler, c'est-à-dire les gens commencent à savoir Dieu et commencent à croire Dieu, le nombre commence à augmenter dans la culte, ça commençait par 1, après 5, après 10. Donc, quand le travail de Dieu s'augmente, le Satan il reste pas calme, donc, il commence à bouger aussi. Donc, il y a un groupe là-bas extrémiste qui a une idée de en fait c'est les mentalités en fait garder tous les gens il faut que l'Inde ça doit être converti en que hindou donc pas des conversions. Donc il y avait un groupe comme ça qui a une idée comme ça. Donc quand ils sont vus les chrétiens maintenant ça commence à augmenter. Et il est venu un dimanche chez nous et ils sont attrapés mon père. Moi j'étais petit, ça s'est passé je crois c'est 1997 je crois. ils sont rattrapés mon père, ils sont sortis mon père de la maison. Et après, ils sont au nombre où ils étaient vers 10, et ils ont mis mon père en milieu. Et mon père, il était dans cette position. Il commence à taper, je ne sais même pas combien de minutes, mais l'image, c'est toujours dans ma tête. Et je n'oublie jamais cette image-là. Et donc, moi, je suis là pour donner un témoignage, pas pour montrer que, OK, qu'est-ce qui se passait. En fait, moi, je voulais vous dire comment après Dieu il a amené les fruits. S'il y a une persécution, il y a un fruit aussi après. Donc ça, c'était en 1997. Ils sont commencés en 1997, mais ils ne sont pas quittés. Ils sont restés. Et nous, on est aujourd'hui, début 2019. Et maintenant, à cet endroit-là, il y a plus que 1200 personnes qui sont converties, qui croient en Dieu et qui viennent tous les dimanches. Et ça, c'est franchement, c'est. Et en plus, avec ça, il y a plusieurs villages juste à côté où ils vont là-bas pour prier, pour partager l'évangile. Donc, s'il y a une persécution, ça ne veut dire pas que les gens vont laisser Dieu. Mais pour moi, le travail de Dieu, ça augmente, ça grandit. Et voilà, ça c'était mon témoignage, c'est mon témoignage de mes parents. Et donc moi aussi, j'étais aussi impacté quand j'étais petit, quand on était enfant, dans l'école, dans la rue. Il dit, ah voilà, le chrétien qui vient. Chrétien, c'est un mot sympa, mais il y a un mot un peu méchant en Inde, Isaïe. Isaïe, c'est vraiment un mot méchant. Voilà, lui, Isaïe, il vient, il va nous convertir. Donc, nous aussi, on a vécu dans cette ambiance et on a vécu ça, mais on n'a jamais dit aux parents, papa, maman, c'est un peu compliqué. Non. Mais nos parents, ils sont pris avec nous, ils nous ont fortifiés et on était tout le temps. Même c'était compliqué, mais maintenant on voit les fruits, on voit on oublie toutes les choses qui est passées. Gloire à Dieu.
Merci Joby. Donc vous voyez que la persécution impacte aussi les enfants. Comme à Cuba, un pasteur que j'avais rencontré avait été emprisonné et son fils de 7 ans, lorsque son père est sorti de prison, il ne voulait plus jamais, jamais quitter son père. Chaque fois que son père quittait la maison, que ce soit pour une course ou pour ce soir rencontrer des chrétiens, il voulait toujours, toujours suivre son père. Il ne voulait pas qu'il parte et il voulait protéger son père, craignant qu'il ne soit emprisonné. Donc dans Hébreux 13, 3, il est dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Donc, si vous le voulez, on va prendre un temps de prière pour les chrétiens persécutés. J'ai mis plusieurs sujets. Puisqu'on vient de parler de l'Inde, on peut mettre cette diapo, ce sujet sur l'Inde. Un État du nord de l'Inde a adopté récemment une loi encore plus sévère que la précédente. Selon la nouvelle loi, quiconque accusé de convertir encourra 5 ans de prison contre 2 auparavant. Prions pour le Premier ministre Narendra Modi qu'il connaisse la crainte de Dieu, qu'il revienne sur sa décision d'éradiquer les chrétiens. Prions aussi pour les chrétiens et ceux qui sont emprisonnés. Prions pour la consolation, le courage, la foi, libération. Prions aussi pour leurs conjoints et leurs enfants. Je ne sais pas si les enfants veulent prier. En tout cas, peut-être je vous propose qu'on se lève tous ceux qui le peuvent, qu'on se lève et que tous ensemble on puisse prier pour ces sujets. Si on pouvait remettre le sujet sur l'Inde. Prions pour le Premier ministre, prions pour les chrétiens qui sont emprisonnés, prions pour tous ceux qui annoncent l'évangile en Inde. Prions par rapport à cette loi aussi.
Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Inde, en te demandant que tu les accompagnes, que tu les encourages, que tu les fortifies, que tu les fasses sortir.
Tu veux le micro.
Nous prions pour que, alors qu'ils sont dans la persécution, tu leur donnes de voir des actions puissantes de l'Esprit Saint être manifestées au travers de leur bouche, au travers de leurs mains, au travers de leurs bénédictions. Bénis nos frères et sœurs en Inde. Nous te demandons que leur témoignage continue à produire du fruit à ta gloire. Nous prions pour le Premier ministre et nous te demandons effectivement que, comme tu le fais pour certains musulmans, viens Seigneur,
touche-le, Seigneur.
Dans une vision, dans un rêve, et viens lui parler.
prier maintenant pour l'Iran. Prions pour la famille de Victor Tamraz qui est arrêté pour son engagement dans l'Église. Prions pour son épouse et son fils. Prions pour les 9 autres chrétiens qui viennent d'être condamnés à 5 ans de prison. Prions pour leurs conjoints et leurs enfants qui sont traumatisés. Seigneur, c'est toujours difficile les premiers jours où les chrétiens sont emprisonnés. Ce premier jour est extrêmement difficile pour eux, et les jours d'après aussi, mais Seigneur, nous te prions de venir les soutenir, de les encourager, de les visiter dans leur prison. Seigneur, qu'ils puissent ressentir tout ton amour, toute la chaleur de ton amour, comme d'autres l'ont ressenti aussi dans la prison, lorsque Seigneur leur montrait que les chrétiens du monde entier priaient pour eux et leur écrivaient. Tout cela les encourage. Seigneur, viens leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes avec eux. Visite-les, Seigneur. Encourage-les, console-les, Jésus. Amen.
Thank you.
prier maintenant pour un dernier sujet, l'Ouzbékistan. Prions pour les chrétiens qui sont souvent inquiétés par la police, menacés d'emprisonnement, afin qu'ils tiennent ferme, qu'ils résistent à la pression, qu'ils soient protégés alors qu'ils évangélisent dans les villes et les villages, qu'ils aient une bonne influence dans la société, même si tout le monde surveille tout le monde. Je vous remercie de continuer aussi de prier pour nos frères et sœurs persécutés. On peut aussi les aider de plusieurs façons. Donc déjà en continuant de prier pour eux. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à prendre. J'en ai mis plusieurs, des magazines avec des sujets de prière et des exemples de persécution. On peut aussi les aider en leur écrivant, en les visitant, en leur apportant des bibles ou d'autres choses dont ils ont besoin pour faire grandir le royaume de Dieu. Je vous invite aussi à aller sur le site de Portes Ouvertes pour vous informer. Par rapport à l'Ouzbékistan et par rapport aux autres pays, je n'ai jamais ramené de photos puisque la mission nous l'interdit toujours pour la sécurité des chrétiens. Mais nous pouvons en tout cas continuer de prier pour eux. Et je vous remercie pour votre aide. Amen. Oui.
Voilà, en attendant, les commandes de miel sont arrivées. C'est Michel qui va vous les distribuer dans mon bureau. Sont donc allez dans mon bureau pour chercher votre commande. Bon, là je dois quelques 1 ou 2 euros par-ci par-là. Venez me voir pour que je puisse vous les redonner. Voilà, et puis vous avez vu que c'est Noël avant l'heure avec la déco. C'est Sylvie et puis Bernadette et Jean-Pierre Gachet qui ont fait ça cette semaine. Thank you.
Georges.
Georges.
On a bien compris, quelle que soit l'épreuve que nous avons dans nos vies, il faut du courage, la persévérance, de la foi. Garder les yeux fixés sur le Seigneur. Peut-être que tu as attaqué dans ta famille, dans ta santé, dans ton entourage, ton travail. Ça, c'est la persécution des pays, dirais-je, modernes. L'ennemi aussi se sert de ça pour nous mettre la pression, pour qu'on oublie ceux qui souffrent pour l'Évangile, pour qu'on se regarde le nombril. C'est ça le problème chez nous. Quoi qu'il arrive, garde courage, ne crains pas, parce que le Seigneur a déjà tout prévu. Garde courage et n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. C'est ce chant que nous allons faire. Le chemin est déjà frayé pour toi. courage. N'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, ce monde te fait souffrir. Le chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Merci à tous. Merci aussi pour votre aide précieuse que vous avez apportée aux missionnaires, à Françoise et aux autres. Merci, merci, merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Mais ne les oubliez pas. Merci.